Ben merci d'abord à Eric, à Claude, à Marie, comme ça, de m'avoir invité dans ce cénacle, d'avoir songé à flatter le goût que j'ai des fanfares. Et avant de parler du sujet que j'ai annoncé sous un titre à la fontaine, le bourgeois est hystérique, je voudrais juste dire un petit mot préliminaire. Je ne suis pas un spécialiste de Barthes, quand beaucoup de ceux qui sont présents ici le sont. Je ne me vante pas du tout de ne pas être un expert. Et je n'en profite pas non plus pour renforcer l'opinion commune qui conseille de s'en méfier. Je suis un petit peu comme ces croyants qui ne prient jamais ni ne vont jamais à l'office, mais qui jouissent de savoir qu'il y a des monastères où quelques semblables le font pour eux. Bref, tout ça pour dire que je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Je voulais faire cette précision aussi pour vous dire que je ne vais pas produire devant vous une étude sur Barthes, quoi. Même si le commentaire de texte est une des plus belles activités qui soit, quoi. Je commenterai néanmoins quelques textes, quoi. Je sens bien en vous disant ça que soutenir qu'une étude qui n'en est pas une peut apparaître comme un paradoxe chic, et que la différence entre une étude et une étude qui n'en est pas une peut sembler indiscernable. Je vais quand même essayer de la formuler, cette différence. Barthes a joué un rôle essentiel pendant ces années que l'on dit de formation, après qu'il m'eut accueilli dans son séminaire de la rue de Tournon. Un rôle que je définirais essentiellement comme une contribution à la fabrication d'une morale intellectuelle. Il a, pour moi, dégrossi, libéré, révélé une tournure intellectuelle en la légitimant et en lui donnant son indépendance. Tous ceux ici qui ont été des élèves savent de quoi je parle. Il était un maître sans disciple. Il a d'ailleurs lui-même fait la théorie de la cohorte qui l'entourait. Tout ça pour dire que on n'étudie pas qui vous a aidé, quoi, qui vous aide. Je suis difficilement capable de l'extériorité que cela supposerait, et j'admire qui en est capable, quoi. Bref, je ne propose pas ici aujourd'hui avec vous une étude de Barthes, dans la mesure où je peux nommer étude le relevé de ce en quoi il m'aide. Et vous voyez bien qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que j'en arrive à dire que, en réalité, c'est Barthes qui m'étudie, quoi. N'est-ce d'ailleurs pas ce que font les écrivains et les artistes qu'on a élus comme compagnons. Mais j'en viens à mon sujet, le bourgeois et l'hystérique. Je ne sais pas si ces deux-là font couple, et si c'est le cas, ce couple fait partie d'une configuration plutôt problématique. Le fait que la configuration soit problématique, c'est d'ailleurs peut-être une définition du couple. Il nous arrive tous les jours de nous dire « mais qu'est-ce que ces deux-là font ensemble ?» C'est ce que je voudrais essayer de voir sur cette question particulière. Le bourgeois, je vais procéder par ordre, puisque il y a hystérique dans le titre, donc il faut bien faire l'obsessionnel. Le bourgeois, c'est un mot, soit sous substantif ou adjectif, qui embarrassait énormément Barthes au moment où je composais l'ensemble de ses écrits sur le théâtre. Si vous voulez, après, je reviendrai sur la manière dont ce livre s'est fabriqué, ne s'est pas publié, puis s'est publié, etc. Mais au moment où je faisais la chose, il avait énormément de mal à supporter l'emploi répété de ce mot-là. Et il me faisait passer des fiches pour dire que ça lui était insupportable, ou dans les articles dont il avait une copie, très souvent il biffait le mot bourgeois. Il avait beaucoup de mal à supporter ça. J'en ai amené quelques-unes. Des petites fiches qu'il me faisait passer, comme ça, fait que tout texte est tellement daté, insoutenable, non republiable si l'on prétend au monument. Inscription Valérie sur Trocadéro, combien daté. Je me porte à cet extrême, republier l'impubliable. Référence obsessionnelle à la bourgeoisie. Très moral, justicier. Ce n'est pas sympathique. C'est là le problème. Ces textes sont insupportables. C'est extrêmement rhétorique, etc. Et cette note, il faut absolument expliquer comment et pourquoi bourgeois revient si souvent comme un clou sur lequel on tape. À l'époque, il n'y avait pas eu inflation du mot. Alors, effectivement, enfin, on peut imaginer pourquoi, à la fin des années 70, c'était un peu difficile de relire des textes écrits dans les années 50. Le brechto-marxisme n'était plus de saison. Il n'était plus tenu par la solidarité politique qui fondait le projet de la revue Théâtre populaire, dont il était un acteur principal. Donc voilà, il y a un tas de raisons qui peuvent légitimement expliquer pourquoi le mot lui apparaissait insupportable. Ces raisons sont bonnes, raisons historiques tout à fait justifiées, valables, etc. Mais sans doute pas suffisantes dans la mesure où c'est un mot dont la signification a été comme vaporisé. Et non seulement le mot ne dit plus grand-chose à part l'époque où il a été prononcé, mais il n'a pas non plus été... il n'a pas du tout... Il n'a pas non plus été remplacé. Quoi. Le mot dit une époque, celle où Barthes l'employait, mais pas la nôtre. Et ça, il l'avait pressenti. Il est difficile aujourd'hui, sous peine d'être pas entendu, mal entendu ou peu entendu, de parler d'un goût bourgeois, d'un public bourgeois, d'un théâtre bourgeois, etc. Ce goût et ce public existent bien entendu toujours, mais ils sont comme devenus innommables. Le 19e siècle avait philistin, le 20e siècle avait bourgeois. Qu'est-ce qu'on a, nous, aujourd'hui ? Si quelqu'un a une suggestion, ce serait intéressant de la faire. Nous n'avons rien, pardon. Parce qu'il n'y a plus de superposition possible entre une classe sociale et ce qui pourrait se rapporter à l'académique, aux conservateurs, aux réactionnaires, etc. Et au fond, ce n'est pas Barthes qui, en 76 ou 77, comme ça, biffe dans ses articles l'adjectif bourgeois, c'est l'histoire qui l'a retiré, quoi. Et il y aurait sans doute d'ailleurs peut-être une petite mythologie à faire sur les mots devenus fantomatiques, quoi. Et bourgeois est effectivement comme une forme sans corps, quoi. Mais Barthes n'est pas seulement, en l'occurrence, une victime de l'histoire ou le témoin irrité d'une défection lexicale. Il est aussi un agent de cette défection. Dans son texte, j'ai toujours beaucoup aimé le théâtre, qui date de 65. Il fissure ou il désagrège, comme ça, ce qu'avait de compact et d'entier l'adjectif bourgeois. Dans ce texte, il rappelle son attachement à la dramaturgie brechtienne et il dit, il peut paraître accessoire, futile même, d'aimer dans un théâtre révolutionnaire une valeur aussi bourgeoise que le goût. Mais précisément, c'est cette conjonction même qui me paraissait capitale, qu'un théâtre renonce à toute esthétique petite bourgeoise et préserve sa forme de toute vulgarité. C'est donc pas simplement le contexte idéologique, politique, artistique, etc., qui a rendu caduque l'emploi du mot. C'est qu'une des valeurs qui constitue le champ ou le volume de signification du mot qui en a été retirée, extraite, quoi. Et au fond, c'est un geste qu'on pourrait dire poétique, dans la mesure où en général, on attend d'un écrivain qu'il conserve au mot sa puissance et toutes toutes les puissances qu'il recèle. Mais il y a un autre travail poétique qui serait de le vider, quoi. Enfin, une poésie plus retorse comme ça qui viserait à dégonfler les mots qu'on emploie, quoi. Mais alors pourquoi est-ce que Barthes était irrité à ce point par le mot qui revient effectivement très très souvent dans ses textes, parce qu'il n'accuse pas l'époque, le contexte, l'histoire. C'est aussi un reproche qu'il se fait à lui-même. Comme ça. Et on pourrait se demander effectivement pourquoi est-ce que le fait d'avoir fait les poches aux bourgeois ne l'a pas fait rire, mais plutôt l'a mis en colère. C'est là où les deux animaux de mon titre, le bourgeois et hystérique, pourraient s'apparier au moins le temps d'une fable. Je vais venir à cette question, mais je voudrais d'abord faire remarquer une autre mésaventure de ce mot et qui touche à sa répétition. C'est peut-être pas tellement le mot qui suscite l'irritation de Barthes que le fait qu'il soit aussi souvent répété. Il n'y a pas d'article dans les écrits sur le théâtre, c'est qui est l'ensemble sur lequel je m'appuie essentiellement aujourd'hui, où il ne soit présent, insistant, indiscret, peut-être aurait-il pu dire lui-même. Par exemple, il y a un très beau texte sur le prince de Hambourg mis en scène par Villard. En 15 lignes, il est cité 5 fois. Décomposition accélérée de la bourgeoisie appauvrie, ce qui est contraire à l'art bourgeois. Dans le théâtre bourgeois, la scène n'est jamais qu'un accessoire, la scène close des drames bourgeois. Toute scène bourgeoise est un rébus. C'est-à-dire, en 15 lignes, c'est moins d'une page, comme ça, il y a 5 fois. Et d'ailleurs, il résume assez bien tout ce qui qualifie, selon lui, le théâtre bourgeois. J'en avais fait un petit relevé que je peux vous dire, partiel, mais enfin qui désigne assez bien comme ça le champ qu'il a lui-même constitué sous ce nom-là, quoi. C'est bourgeois, c'est le une des choses essentielles, c'est l'idée que de la clôture de la scène, comme ça, qui vise à protéger comme ça, une image essentialiste de l'homme, comme ça. Et s'il aimait tant le cartel, c'est parce que justement la scène avait été ouverte. Et il y avait d'ailleurs une petite note qui m'avait passé, où il disait... ça soulignait la proximité dans le temps du cartel comme référence. Époque de mon adolescence, où j'allais beaucoup au théâtre, au poulailler, comme on va aujourd'hui au cinéma. J'adorais Dublin. Toujours sous ce qualificatif, il y a, par la clôture, il y a aussi l'idée que la scène devient une sorte d'accessoire de la pièce. Donc, l'espace est en réalité très, très important, que c'est le lieu d'élaboration d'un rébus où le spectateur est chargé de découvrir un secret. C'est bourgeois, c'est moi, aussi...
Tu pourrais parler plus fort.
Ah oui, pardon, ouais. Oui. Excuse-moi. Je recommence tout depuis le début. C'est aussi un équivalent de inerte, endormi, repu. J'insiste sur repu, d'ailleurs, parce que la question des viscères va être assez importante. Le bourgeois, c'est celui qui discrédite l'histoire, c'est-à-dire qui est pour la nature contre l'histoire. C'est l'adepte du mensonge visuel, du faux or, du théâtre de l'argent. C'est celui... Le théâtre bourgeois qui donne bonne conscience aux privilégiés, c'est du point de vue de l'acteur, celui qui réduit le rôle à la pure psychologie, pour faire en sorte que le spectateur soit comme nourri à la tétine. C'est une image qu'il emploie, c'est comme repu, je vais y revenir aussi. C'est toujours du point de vue de l'acteur, celui qui est dans l'art de la composition, du cabotinage, c'est celui qui flatte l'intellection du spectateur, qui veut séduire. Là, Gérard Philippe en prend pour son grade. Le théâtre bourgeois, dit-il, est un théâtre de frôleurs. C'est celui qui est un art du simili, de la participation totale, de celui qui empêche qu'il y ait un recul ou un écart entre le personnage, l'interprète et le voyeur, etc. Bon, voilà, je faisais juste un petit inventaire pour remettre en mémoire des choses qui sont très claires et très évidentes dans tous ces textes sur le théâtre. Mais le fait de la répétition a aussi un autre caractère qui m'intéresse beaucoup, et dans la mesure où elle ne vient pas simplement de la nécessité d'insister sur un fait, une caractéristique, un événement, etc. C'est pas non plus simplement... bien sûr, un relâchement du style ou un effet rhétorique. C'est aussi une opération, comme ça, un travail qui est fait sur et avec la langue. C'est une chose qui m'avait beaucoup frappé quand, beaucoup plus tard, après cette tentative de réunion des écrits sur le théâtre, et beaucoup plus tôt dans le temps, c'est-à-dire, pas très longtemps. C'est une chose dont je m'étais avisé en regardant des près des textes de Jouvet, et plus particulièrement, pas des textes de Jouvet, mais la retranscription de ses cours au conservatoire, qui sont des textes tout à fait passionnants. Et dans ces cours du conservatoire, tels qu'ils sont transcrits par Charlotte Delbault, en fait, dans deux volumes qui avaient été publiés chez Gallimard, mais il y a encore 5000 pages à la Bibliothèque nationale. Quand il dirige ses élèves, il y a un mot qui revient assez souvent, si vous avez lu ces textes-là ou vu le film qui avait été fait à partir de ces textes-là, Elvire Jouvet 40, il y a un mot qui revient tout le temps, qui est le mot de sentiment. Jouvet dit à ses élèves, mais tu n'as pas le sentiment, quand tu entres, il faut que tu aies le sentiment. Si tu n'as pas le sentiment, tu ne peux pas... Et le mot revient si souvent qu'au bout d'un moment, on ne sait absolument plus du tout ce qu'il veut dire par là. Enfin, déjà, le mot est un peu vague, un champ comme ça de connotations, des notations très, très vastes. Mais en plus, la répétition fait qu'on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Et on entend en même temps qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel, fondamental, dans l'enseignement de Jouvet à l'égard des acteurs. bien qu'au bout d'un moment, le mot devient une sorte de mot vide, de mot vidé, de mot creux qui ne joue plus son rôle que par la place qu'il prend dans le mouvement d'une phrase, l'exigence d'une pensée. Ça ne devient plus le mot répété, il est comme réduit à sa pure signifiance, ça devient un pur objet sonore, comme un élément glossolalique, comme ça. Et le mot se décharne, s'épuise, on pourrait presque dire, il y a une sorte de d'éviscération sémantique du mot dans sa répétition incantatoire. Il est ouvert comme un corps peut l'être et le sens s'en écoule, quoi. Le mot bourgeois, comme ça, dans son usage d'adjectif, devient donc tout d'un coup décharné, quoi. Il est décharné, je l'ai dit tout à l'heure, d'une part par la situation, l'histoire fait qu'il a perdu ses qualités politiques et polémiques. Il est décharné aussi donc par une extraction, c'est-à-dire qu'une des valeurs qui le composent a été prélevée. Et troisièmement, il est décharné aussi par la répétition qui le vide, comme ça, de son sens. Comme ça. Donc en somme, le bourgeois est dégonflé, quoi. On pourrait dire. Et c'est sans doute ça, j'imagine, qui pouvait répugner à Barthes plus qu'un vieillissement de son style, quoi. On sait que dans le chant, il aimait la voix qui bande et il ne pouvait supporter un mot débandé, débandant. Il faut que la langue ait du corps. Et vous voyez qu'ainsi, j'en viens au second personnage de ma fable, l'hystérique. dont le terme, tel que je l'emploie ici, se mélange à la fois le sens courant, un peu ordinaire, commun, qui est ce qui n'a trouvé que le corps pour se dire, comme ça, et un sens à la fois plus général, mais qui est assez spécifique dans l'emploi que Barthes en fait. Est hystérique ce qui ne se constitue que d'être regardé, quoi. Il le dit de façon extraordinairement simple et claire dans la chambre claire. L'histoire est hystérique, elle ne se constitue que si on la regarde. Alors, la chose qui m'a intrigué, au fond, le point sur lequel j'interviens aujourd'hui, et celui-là, et c'est un point qui m'avait frappé, mais que j'étais sans doute dans l'incapacité d'élucider dans les jeunes étudiants dans les années 70, c'est que je ne pense pas qu'il y ait dans les écrits de Barthes une seule mention qui soit favorable à l'hystérie. L'hystérie n'est citée que comme étant l'objet d'une répugnance et d'une condamnation générale. Quoi. Et de ce point de vue-là, bourgeois et hystériques sont un peu à la même enseigne. Mais ce qui m'importe, c'est que il y a là, dans l'emploi ou la réprobation générale faite sur ce terme, quelque chose comme une contradiction. Une contradiction qui n'est pas imputable à une incohérence ou à une évolution, comme on dit, la pensée de l'auteur. Il aurait eu une opinion, puis il en aurait changé, etc. C'est une contradiction qui ne vaut que d'être maintenue parce qu'elle est à la fois constitutive et motrice, quoi. On sait, Barthes est allé au théâtre, il a écrit sur le théâtre, il a participé, il s'est engagé de façon très active dans la revue Théâtre Populaire. Il n'est plus allé au théâtre, et il n'a plus écrit sur le théâtre. Le point, c'est que je pense qu'il s'agit de tout autre chose que d'un désamour ou de la nécessité intellectuelle de changer d'objet ou même d'une simple variation du goût. Ce que je voudrais soutenir, c'est que la raison pour laquelle il ne va plus au théâtre est exactement la même que celle qui l'y conduisait. Il n'a pas formulé lui-même ainsi, mais je pense qu'il l'a indiqué. Il y a cette phrase qui est souvent citée du Roland Barthes par lui-même, au cœur de toute l'œuvre, peut-être le théâtre. Il est indiqué aussi par la place qui est accordée au théâtre, ou à la chose théâtrale, ou au fait du théâtre, ou à l'idée du théâtre, dans son dernier livre, La Chambre claire. C'est lui aussi qui m'avait demandé que, dans le recueil des écrits sur le théâtre, le premier texte, il voulait qu'il ait une fonction importante dans le livre, comme ça, et donc l'idée c'était de le mettre au début du livre, alors que tout le reste des articles sont publiés de façon chronologique. Ça, c'est un texte de 65, donc qui est absolument postérieur à tous les autres. Ce texte qu'il voulait voir en tête et privilégié, c'est « J'ai toujours beaucoup aimé le théâtre ». Il y a là quelque chose qui n'est pas du tout, je pense, une sorte de paradoxe chic ou d'idéalisation du théâtre qui consisterait à dire qu'il est là sans être là. Il y a là une vérité du théâtre, et quand j'ai souhaité faire ce recueil des écrits sur le théâtre, c'est que je voulais en savoir plus, quoi. Et l'idée, c'était comme si le simple fait de fabriquer ce volume allait presque magiquement, comme ça, révéler la nature, le sens de ce qui m'apparaissait comme une contradiction, mais le mot n'est pas très juste, pas très adéquat, mais je n'ai pas trouvé d'autre. Le point, je pense, c'est que cet apparent paradoxe, enfin, le fait que le théâtre soit là quand il n'y est plus, que sa fréquentation se détermine par son refus, ou comme je le formulais tout à l'heure, le fait qu'il n'aille plus au théâtre est soutenu par une raison qui est exactement la même que celle pour laquelle il y allait, est en fait, je crois, l'image d'une contradiction plus profonde et qui est éclairée par la question de l'hystérie. Et voilà pourquoi j'ai réuni ces deux animaux. Parce que l'hystérie est tellement haïe, je n'ai pas fait le petit inventaire, mais vous êtes tous des lecteurs de Barthes, donc vous avez votre propre inventaire en tête sur cette question. Cette hystérie que Barthes détestait tellement, il l'aime. Sinon, l'aimer, il en reconnaît les vertus et les charmes. Et ce n'est pas une interprétation de ma part, c'est quelque chose dont il fait quasiment l'aveu dans l'Empire des signes à propos du Bunraku. Il faut se rappeler, dit-il, que les agents du spectacle dans le Bunraku sont à la fois visibles et impassibles. Les hommes en noir s'affairent autour de la poupée, mais sans aucune affectation d'habileté ou de discrétion, et, si l'on peut dire, sans aucune démagogie publicitaire. Silencieux, rapides, élégants, leurs axes sont éminemment transitifs, opératoires, colorés de ce mélange de force et de subtilité qui marque le gestuaire japonais et qui est comme l'enveloppe esthétique de l'efficacité. Quant au maître, sa tête est découverte lisse, nu, sans fard, ce qui lui confère un cachet civil, non théâtral. Son visage est offert à la lecture des spectateurs. Mais ce qui est soigneusement, précieusement donné à lire, c'est qu'il n'y a rien à lire. On retrouve ici cette exemption de sens que nous pouvons à peine comprendre, puisque chez nous, attaquer le sens, c'est le cacher ou l'inverser, mais jamais l'absenter. Avec le Bunraku, les sources du théâtre sont exposées dans leur vide. Ce qui est expulsé de la scène, c'est l'hystérie, c'est-à-dire le théâtre lui-même. Je ne pense pas qu'il y ait ailleurs dans l'œuvre de Barthes de formulation aussi limpide de ce que j'essayais de formuler sous le terme de contradiction. Son visage est offert à la lecture, dit-il de l'acteur du maître dans le Bunraku. Or, si l'hystérie est bien ce qui ne se constitue que si on le regarde, alors il faut dire que l'acteur du Bunraku est hystérique. Alors que c'est précisément lui, comme en témoigne Barthes, qui expulse l'hystérie de la scène. Et donc, voilà, je pense, le pas que Barthes invite à faire, c'est il n'y a que l'hystérique qui puisse chasser l'hystérique. Oui, c'est vrai que, par définition, un obsessionnel ne saurait pas comment s'y prendre. Mais avant de continuer à regarder cette page de l'Empire des signes, je voudrais rappeler que cette position, cette conception du théâtre, comme ça, n'est en réalité pas du tout solitaire ou singulière, au milieu des années 50, etc. Elle ramasse au contraire quelque chose qui s'élaborait, se construisait, se pratiquait et se pensait depuis un peu plus d'un demi-siècle, enfin grosso modo un peu demi-siècle, que c'est une question qui court dans l'art du théâtre tel qu'il s'exerce après l'invention de l'art moderne de la mise en scène à la fin du 19e et qui se développe sous des formes extraordinairement différentes mais toujours en cohérence avec les bases de cette révolution de la mise en scène, surtout dans la première moitié du XXe siècle, et qui est illustré d'ailleurs notamment par les metteurs en scène du cartel que, je le rappelais tout à l'heure, Barthes aimait particulièrement. Quoi. Je vous en donne deux exemples simplement. Il y a par exemple une très belle page de Copeau, comme ça, alors qu'il vient de fonder le théâtre du Vieux-Colombier. Il est dans son théâtre l'après-midi, le théâtre est vide, il n'y a pas de répétition. Et il y a un moment où il y a un électricien qui traverse le plateau pour chercher un tournevis. Enfin. Et Copeau se fait cette réflexion que jamais il pourra obtenir de ses acteurs de traverser la scène avec cette simplicité, cette intensité, cette détermination affairée qu'avait cet électricien traversant tout simplement la scène. Qui est une chose absolument incroyable, parce qu'il vient d'ouvrir un théâtre, il vient de fonder une école où on va former des acteurs, et au fond, il dit le théâtre idéal, ce serait un théâtre où il n'y aurait pas de théâtre, puisque jamais un acteur ne pourra être aussi parfait que celui qui n'en est pas un, puisque il est électricien. Et comme vous le savez aussi, à peu près à la même époque, ayant passé une partie de son enfance et de sa jeunesse sur les scènes et avoir un peu fait de mise en scène, Gordon Craig se retire, se met à la gravure et écrit des textes pour dire que le théâtre ne sera refondé que quand on aura chassé les acteurs de la scène. Enfin, il s'enchante d'un mot de Ladouze qui avait vu dans un théâtre allemand ce pancarte à côté du plateau, « Sprechen streng verboten », comme ça. disait ça y est, ils ont enfin découvert l'art du théâtre, etc. Quoi. Tout ça pour dire que trouver quelle est la formule d'un théâtre qui n'en serait pas un n'est pas simplement une particularité de Barthes, il s'inscrit absolument dans l'histoire de l'art du théâtre au XXe siècle. Mais je reviens au visage offert à la lecture des spectateurs, cet extrait de l'Empire des signes à propos de l'acteur du Bunraku, quoi. À la lecture des spectateurs, la lecture, oui, mais la lecture de quoi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à lire sur le visage de l'acteur de Bunraku, quoi. Un texte, non, c'est un visage. Quoi. Pour comprendre la phrase, je pense qu'il faut, entendre ce que livre l'étymologie de texte, comme ça. Et on peut imaginer que Barthes l'avait en tête. Et penser au tissu. Texte et tissu, on sait, ça, voilà. C'est le même mot, etc. Et au fond, un tissu, ce serait un texte où il n'y a rien à lire, quoi. Un corps en spectacle, quoi. Et au fond, on pourrait dire qu'un texte prend corps pour devenir tissu quand l'hystérie a chassé l'hystérie, quoi. On ne sort pas de là. Toute l'histoire repose en dernière instance sur le corps humain, dit Barthes au texte du début de son œuvre. C'est dans le Michelet. Et à la fin de son œuvre, l'histoire est hystérique, dit-il dans La Chambre claire. Donc on ne sort pas de cette contradiction, sauf à jouer sur la confusion du texte. Et du tissu. Et cette confusion, elle est, je trouve, très, très clairement explicitée dans un des très beaux articles sur le théâtre, qui est celui sur le Don Juan de Villars. Barthes écrit « Son Don Juan est sec, métallique, galvanique. Il a le sang vif et concentré. C'est une figure du feu. » Foudroyé, il ne fait que rentrer dans son élément. Son double, Sganarelle, a l'humeur limpide. Il se répand en paroles, en sueur, et en autre chose aussi, Molière le dit. Or cela, cette unité biologique du rôle, c'est de la part de Villars et Sorano, l'acte même qui donne au couple sa durée, car c'est manifesté que, dans toute théâtralité profonde, l'homme n'existe nullement par sa psychologie, comme on le répète à satiété, mais par ses tissus. La première vertu du comédien, c'est de composer son histologie. Quoi. Cette tension, texte-tissu, je dirais tension d'ailleurs plus que contradiction, comme ça. C'est très certainement Michelet qui la lui a confiée. Michelet, dont il disait d'ailleurs justement, c'est avant tout un Don Juan confesseur. D'ailleurs, le Michelet est de la même année que le texte sur le Don Juan de Villars, 54. Quoi. Et que le texte sur Hombourg aussi, quoi, que je citais tout à l'heure. Quoi. C'est avant tout un Don Juan confesseur, et l'acte érotique est en lui-même réduit à la plus difficile des confidences, il importe peu que la femme soit apte ou non à l'amour. Seule la crise est son attrait. Il s'ensuit que le mari n'est plus à proprement parler mâle, géniteur, maître, il est essentiellement spectateur. Donc, il faut sans doute voir dans ce jeu entre texte et tissu, dans cette répulsion et attraction de l'hystérie, corps en spectacle, une forme originale et un peu cryptée de ce qui serait la catharsis de notre temps, la catharsis de notre poétique contemporaine. Parce qu'en effet, l'ombre qui veille sur cette opération, l'hystérie qui chasse l'hystérie, est celle de ma mortalité, quoi. Toujours dans le Michelet, Barthes écrit « Dans l'homme historique, allons aux plus fragiles, laissons là l'expression, les traits, et retrouvons la substance corruptible et mortelle, la couleur du sang, la densité des tissus, le grain de la voix, tout ce qui s'effondrera et s'écoulera au cercueil. » En attendant, je peux jouir sans risque de mon destin en allant au théâtre. Je vous remercie.